le Big Bang. J'ai le plaisir de recevoir une nouvelle fois Yoani pour les soirées de la décolonialité. La prochaine aura lieu jeudi prochain, jeudi 15 juin, jeudi prochain. Donc on est ensemble pour parler une nouvelle fois de ces rendez-vous qui se déroulent à chaque fois au temps des cerises. Yoani, et donc tu es l'instigatrice, la créatrice, la fondatrice, mais aussi l'animatrice, puisque tu modères les débats avant que le public se lance avec les auteurs, puisque c'est bien ça aussi le principe, qu'il y ait aussi des échanges avec les personnes que tu invites, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Des petits temps pour en savoir plus sur les personnes qui viennent parler de ces sujets, de la décolonialité. Alors la dernière fois que tu es venue, tu venais nous présenter Françoise Vergès. Tu peux nous faire peut-être un bilan de cette première rencontre de l'année ?
Ouais. Eh ben, bilan souriant, joyeux, positif, dans le sens où il y a eu pas mal de personnes qui se sont déplacées. Très présente, une vraie présence des gens à l'écoute et curieuse de découvrir ou de approfondir le sujet donc là du musée. On était sur décoloniser le musée et donc voilà quoi, une fin de rencontre qui pour moi montre bien que la mayonnaise elle a bien pris quoi, c'est-à-dire que souvent ce que je fais à ces moments-là c'est que je lâche total le micro, je quitte l'espace entre guillemets, je reste là mais et voilà, et le ping-pong se met en place entre les personnes qui sont présentes et puis l'invité et du coup voilà, moi à partir de ce moment-là je me dis que c'est bingo parce que bah voilà, les gens se mettent à en parler entre eux, avec l'auteur. Et j'ai eu des plutôt bons retours. Et ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que des personnes venaient me voir en me disant qu'ils arrivaient vraiment sans rien connaître sur le sujet et qu'ils revenaient avec un je ne sais quoi de nourri en eux. Voilà, pour leur vie, leur imaginaire, leur je ne sais quoi. Et voilà, et du coup, ben, ça, c'est très bien.
Et l'envie, très certainement, d'aller lire, du coup, les livres qui sont liés à ces conférences, puisque ça part toujours d'un livre. C'est ça aussi ouais. Le principe de tes rencontres, comme celle qui va donc suivre jeudi prochain et qui est encore une fois une autre autrice. C'est vrai que tu favorises aussi les femmes plutôt dans cette programmation, intentionnellement ou pas, peut-être ?
Bah là, en tout cas, l'autrice, éditrice et traductrice qui vient, c'est donc Paola Anacaona, des éditions qui portent le même nom, Anacaona. Et sans vraiment l'avoir prémédité, on est sur un quatrième opus où effectivement seront à l'honneur les femmes, les femmes noires. Parce qu'il est cher à ses yeux aussi toujours à Paola de rappeler de quelle femme on parle parce qu'on peut parler de plein de femmes et là en l'occurrence ouais voilà on vient parler, on vient honorer, on vient raconter des récits de femmes noires du Brésil et donc voilà c'est Paola des éditions Anacaona qui viendra nous présenter tout ça. Effectivement, elle, dans son travail, donc elle a créé les éditions Anacaona à la fin des années 2010 et elle traduit en fait vraiment du brésilien, du portugais brésilien vers le français. Donc déjà ça, c'est intéressant, ce mouvement d'un savoir, de pensées qui viennent vraiment d'ailleurs. Parce que dans les soirées de la décolonialité, on est vraiment là-dedans en fait. Comment aller voir le monde, écouter, penser le monde d'une manière qui se décentre de tout ce qu'on a pu nous apprendre depuis qu'on était petite, quoi, un savoir européano-centré. Et donc voilà, elle va vraiment traduire des pensées brésiliennes vers le français. Donc déjà ça, c'est rare. En fait, c'est très rare. On a beaucoup d'ouvrages qui sont pas traduits en français, encore moins quand ça vient du Brésil. Et puis, elle est également auteure. Et c'est vrai que les quatre ouvrages, si je me trompe pas, qu'elle a écrits, sont quand même très orientés sur des femmes oubliées de l'histoire, des combattantes, des guerrières un peu, des femmes qui ont lutté. Et puis, qui ont été effacées en fait. Donc il y a eu vraiment, il y a eu par exemple Anacaona, l'insurgée des Caraïbes, donc qui a le même prénom. Donc Anacaona, c'était une princesse guerrière Taïnos. Les Taïnos, c'était les premiers habitants des actuels Haïti, Cuba, Porto Rico. Et en fait, tout son livre retrace un peu l'histoire de l'arrivée des Espagnols, mais d'un point de vue Taïnos. Donc à chaque fois, elle fait beaucoup de recherches pour être le plus proche possible d'une réalité qui a été oubliée, qui a été effacée. C'est cher à ses yeux dans ce roman de changer un peu le discours, non pas du vainqueur, mais de vraiment rendre justice et dignité à des peuples en fait qui ont lutté. Qui n'ont pas juste été exterminés, comme l'histoire nous le rend, mais qui ont vraiment lutté. Et puis là, dans celui qu'elle vient nous présenter jeudi prochain, on est sur c'est Maria Blandão, nos pas viennent de loin. J'essaye de faire un accent
portugais.
Ouais, brésilien, voilà. Je ne parle pas du tout le portugais brésilien. Et où là, voilà, on est encore sur la présentation, non pas d'une femme, mais de plusieurs femmes. Il y a vraiment ce sentiment qui est présent dans le livre de comment c'est important de ne pas se lâcher la main. Entre femmes noires à une époque du coup où on est vraiment là en l'entre-deux entre l'abolition de l'esclavage dans un Brésil qui commence à s'industrialiser et voilà.
On aurait tout à apprendre aussi de ces femmes qui sont invisibilisées de par là où elles viennent, en fait, géographiquement, parce qu'elles seraient nées aux États-Unis. Au final, la traduction, elles parleraient anglais, la traduction serait peut-être faite depuis longtemps. Ça dépend beaucoup de où on vient, et ça, c'est ce que tu disais aussi, Yoani, justement. Et donc, elle rend visible ces expériences, ces personnes, et on a tout à y apprendre, puisque la culture brésilienne est assez radicale de manière féministe et je pense qu'on a aussi à apprendre, nous, européennes, de ces expériences-là dans nos luttes, dans nos formes de féminisme même moderne. Et je pense qu'il y a vraiment passation à réécrire leur histoire et à nous les transmettre, quoi.
Bah oui, bien sûr. Et puis comme voilà, le sous-titre, c'est vraiment ça, c'est nos pas viennent de loin. C'est que c'est très très loin et en fait, rendre dignité, moi en tout cas, c'est ce que je sens dans la lecture de ce livre-là, c'est qu'on est vraiment dans comment la vie d'anonyme, parce que finalement, c'était des femmes paysannes, noires, pauvres, donc sans aucun intérêt apparemment pour en tout cas l'organisation du monde dans laquelle on est toujours aujourd'hui, donc très inégalitaire. C'est finalement des femmes qui servent pas à grand-chose, mais qui finalement servent absolument à tout. Parce que c'est elles qui font la cuisine, c'est elles qui habillent les maîtres, même si officiellement on est donc abolition de l'esclavage, c'est plus les maîtres d'esclaves, mais bon, le schéma continue, c'est eux qui détiennent tous les moyens de production, les blancs, hein, les descendants de colons, et ces femmes en fait les nourrissent, les habillent, gardent leurs enfants, donc voilà, ces vies apparemment anonymes et sans aucun intérêt, en fait ne le sont absolument pas, elles sont le ciment de toute une organisation, et puis, elle lutte. C'est-à-dire que l'histoire commence vraiment avec une... En fait, il y a une compagnie utopique révolutionnaire qui traverse tout le Brésil et arrive dans le village de Maria. Et là, sur une terre déjà fertile, il y a vraiment les graines de la révolution qui vont prendre racine dans son cœur, particulièrement à elle, Maria, et puis à d'autres camarades à elle. Et puis voilà, quoi, qui décide de sortir de la misère en aiguisant leur œil révolté. Donc politiquement, on a aussi donc toute la découverte du personnage avec le communisme et puis vraiment vraiment cette notion, il y a d'ailleurs tout un chapitre qui s'appelle comme ça sur on ne se lâche pas la main, et ça moi je trouve ça pourquoi pas très inspirant en fait, voilà, à une époque où finalement faire intersection les uns les unes avec les autres, c'est pas simple et c'est pas facilité par le pouvoir mis en place qui finalement ce que déteste le plus le pouvoir, c'est qu'on fasse solidarité en fait, qu'on fasse corps les unes avec les autres. Donc voilà, effectivement, pourquoi pas aussi que ça puisse être une source d'inspiration pour nourrir nos imaginaires de c'est quoi ne pas se tenir la main entre femmes. avec un S. Voilà.
Justement, tu parlais d'intersection. On est encore une fois dans des thématiques qui ont attrait à l'intersectionnalité ici avec ton invité qui sera Paola Anacaona. Et comme les précédents rendez-vous au final, puisque c'est ça aussi le principe de ces rendez-vous, tu le disais, faire comprendre et entendre l'autre point de vue, celui de celui qui a été colonisé. Là, c'est un point de vue, une nouvelle fois, d'une femme noire. C'est donc un point de vue intersectionnel. Tu veux bien nous expliquer un peu ce terme ? Je sais que on aura l'occasion de t'avoir bientôt à la radio pour nous l'expliquer davantage, mais avant même de donner trop de spoilers à cette annonce, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est l'intersectionnalité de ce point de vue-là ?
Alors là c'est le moment où je rappelle que à aucun moment je suis spécialiste et je suis pas du tout une universitaire, je suis juste voilà une passionnée avec ma propre expertise de terrain de ma vie. L'intersectionnalité c'est il me semble une notion hyper complexe. Voilà, pour toute personne qui m'écoute, qui m'entend, désolée si j'écorche des trucs ou quoi, parce que justement, j'en parlais récemment donc dans une émission avec, avec une professeure de sociologie, etc., qui en parlerait de manière intellectuelle et universitaire beaucoup mieux que moi. En tout cas, je pense que l'intersectionnalité, c'est quelque chose qui est quand même qu'on vit dans nos corps et qu'on peut ressentir.
Je dirais. En tout cas, comment ça se matérialise ?
Ouais. Comment pour moi ça se matérialise ? En tout cas, pour faire le pont et le lien avec l'invité du 15 juin prochain, Paola Anacaona, donc le dit dans ses éditions. Hein, ses éditions se veulent intersectionnelles et c'est vraiment non pas le cumul de plein de formes d'oppression, mais c'est en tout cas analyser plein de points de vue différents. En tout cas, elle, c'est ça qu'elle propose dans ses éditions. Elle a des livres sur le transgenre, comment on lutte quand on est au Brésil et qu'on est transgenre. Elle a des livres sur l'adoption internationale. Là, en l'occurrence, elle a pas traduit. En tout cas, elle a édité un livre sur la condition des adoptées transraciales à l'international. Elle a plusieurs livres, du coup, sur des récits de femmes qui méritent et qui ont besoin d'être re-racontées du point de vue directement d'elle-même en fait et des opprimés. Elle a des livres, elle édite des livres sur le colorisme, cette notion qui est à l'intérieur du racisme. Elle a des livres sur toute l'histoire du Brésil post-esclavagiste, industriel, etc. Donc je dirais que l'intersectionnalité pour moi c'est peut-être une tentative encore une fois en fait de faire commun, de faire corps les uns les unes avec les autres malgré nos cumuls d'oppression différents selon qui on est en fait. Pour moi l'intersectionnalité c'est vraiment très complexe en fait parce que je crois qu'il est question de beaucoup de souffrance en fait, de souffrance, de violence, de mort. Parce que ce qu'on rappelle aussi, l'importance en fait de parler de femmes et de préciser qu'on parle de femmes noires, c'est que encore aujourd'hui, par exemple au Brésil, les femmes noires féministes luttent, mais elles luttent en fait pour la vie. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose d'encore un peu différent que pour les féministes ici en France. C'est-à-dire qu'elles rappellent qu'au Brésil, en fait, toutes les 23 minutes, t'as des jeunes noirs qui sont tués. Toutes les 23 minutes. Donc forcément, ça donne un féminisme qui va être teinté aussi d'autres choses, même si ce qui prime tout le temps, c'est la dignité. L'intersectionnalité, c'est peut-être s'ouvrir à d'autres récits sans effacer le sien. C'est pas parce que le récit qu'on a en face il est différent ça efface le tien. Je pense qu'on est aussi dans quelque chose de beaucoup plus circulaire et de constellation plutôt qu'un ordre hiérarchisé comme on a habitué. Comme là on pourrait se dire l'intersectionnalité c'est quoi ? C'est de dire que du coup le féminisme des femmes noires est plus important que celui des femmes blanches. Non, c'est pas ça. C'est vraiment
il couvre des réalités différentes.
Il couvre des réalités différentes et en tout cas voilà pour moi l'intersectionnalité l'intersectionnalité, c'est un projet qui est ambitieux, qui demande beaucoup d'imagination, beaucoup d'écoute sans doute, comment on s'écoute, comment on se parle, et il fait peur et il dérange vraiment l'ordre établi, parce que je pense vraiment que l'intersectionnalité, pour moi, c'est égal faire commun. Comment on fait corps tous et tout ensemble avec nos oppressions qui viennent du même monstre, hein, qui a à chaque fois la même structure, ce monstre capitaliste, racial, genré, enfin voilà. Réponse un peu longue parce que c'est vraiment non, très complexe.
C'est complexe,
pense.
Effectivement, ouais. Mais toi, ce que tu proposes à travers ces rendez-vous, c'est justement de venir en discuter avec des gens qui l'ont vécu et qui en ont parlé au travers de littérature, donc au travail de recherche, au travail de... Enfin voilà, c'est des heures et des heures de la part des invités aussi, et donc du coup une certaine expertise, et donc la rencontre, le lien qui se crée et le partage et la visibilisation de ces expériences qui nous apporte à toutes. Alors on rappelle, le rendez-vous c'est jeudi 15 juin au temps des cerises. Oui. Quand, comment, à Miam, pas Miam, tout ça.
Oui, donc oui, c'est le jeudi 15 juin, c'est à partir de 18h avec une rencontre qui commencera vers 18h45, je pense, 19h, grand max. De toute façon, le train de Paola arrive à 18h15. Donc voilà, le temps que j'aille la chercher, qu'on revienne, on commencera. Il y aura la cantine Vegan Mandal qui sera présente. Donc également, voilà, possibilité de manger, de se restaurer. En rappelant, parce que je me suis rendu compte que je ne le précisais jamais, mais en fait, tous les fonds que vous donnez à cette cantine est reversé en fait à différentes organisations de soutien, par exemple aux personnes réfugiées dans la ville de Reims, et parfois enfin, voilà, d'autres, en tout cas voilà, les sous que vous donnez servent à soutenir des luttes. Donc voilà, 18h, à partir de 18h, au temps des cerises le jeudi 15 juin avec donc Paola, Anna Kaona. Voilà, n'hésitez pas à aller sur internet, déjà regarder ces éditions qui sont d'une richesse absolue quand on s'intéresse à vouloir changer le monde et à s'intéresser plus particulièrement aux rapports de race en fait, et de domination via la race. Et voilà. Et effectivement, elle a travaillé 2 ans en fait sur Maria Brandão en partant au Brésil et en recherchant. Alors c'est très difficile parce que vu que c'est des femmes, des vies qui ont complètement été effacées, c'est un travail d'archéologue, en fait, de rechercher des traces de ces personnes. Et donc, voilà, elle a cherché. Et voilà, au bout de 2 ans, on a donc ce livre avec des illustrations magnifiques. Il y aura des livres présents le jour même. Elle ramène, Paola, des livres. Voilà.
Donc on pourra avoir son exemplaire juste après la conférence.
C'est ça. Nos pas viennent de loin.
Eh ben ouais. Et nous aussi, on vient de loin. Et elle aussi, du coup, elle vient de loin, du Brésil à la France. Mais je crois qu'elle réside un petit peu en France aujourd'hui.
Oui, oui, elle est à Paris. Elle a grandi à Paris. Mais elle nous en parlera mieux. Elle se présente. Hein.
Et faudra être là au chapiteau.
Carrément, venez rencontrer Paola Anna Kaona et découvrir vraiment son travail. Moi, je suis très heureuse de la recevoir parce que c'est un peu comme une boucle, non pas bouclée, parce que je pense déjà à des prochains opus des soirées de la décolonialité. En tout cas, voilà, numéro 4 avec quand même ces éditions. En fait, moi, ont été hyper importantes dans et elles le sont toujours hein, dans mon parcours et dans même pourquoi les soirées de la décolonialité existe à Reims. On pourrait dire que les éditions Anna Kaona ont énormément joué. Oui. Donc ça vaut vraiment le coup de venir rencontrer Paola.
Hey, en plus, il fait beau maintenant, alors plus d'excuses,
plus,
on sort.
Beau.
Le temps des cerises, c'est sur le site de l'Hippodrome, sur le quartier Croix-Rouge. Vous pouvez venir en tram, en bus, en vélo, en covoite, à pied, de la manière dont vous voulez. En fait, tout ce qu'il faut savoir, c'est que la conférence débutera à 19h. Merci beaucoup, Yoani.
Merci
on te dit
à toi.
À très vite dans le cadre d'un autre rendez-vous, si je ne me trompe
on
pas.
On ne s'arrête pas.
On ne s'arrête pas. Merci à toi d'avoir passé un petit bout de la midinale avec nous.